Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Axel Mauger.
Nous sommes très heureux aujourd'hui sur Canal Academy d'accueillir un excellent journaliste qui s'appelle Gérard Gachet. Gérard Gachet a longtemps été journaliste au Figaro quotidien, et ensuite il est passé à Valeurs Actuelles en tant que directeur de la rédaction et membre du directoire du groupe Valmonde. Et aujourd'hui nous le recevons parce que Gérard Gachet a écrit un livre extrêmement intéressant aux éditions du Rocher qui s'appelle « La France sans complexe » et qui est sorti en février 2007. Donc je le reçois aujourd'hui et je suis extrêmement heureux de le recevoir parce que c'est un livre, je vais vous poser la question, cher Gérard Gachet, c'est un livre à voix multiple, si j'ose dire. C'est une sorte de livre que j'appellerais « kaléidoscope ». Est-ce que cette première définition vous convient ou pas ?
Oui, c'est exact. D'abord, merci de me recevoir. C'est en tout cas un journal de bord, un peu de 2002 à 2007, d'une présidentielle à l'autre, on pourrait presque dire, et qui effectivement a un côté multiple et kaléidoscopique, puisque à travers des petits faits, souvent très différents, très disparates, très éloignés les uns des autres, mais je m'efforce de donner un petit état des lieux de mon pays. Moi, je suis un observateur, je suis un journaliste, et donc j'aime bien décrire ce que je vois. Et c'est un peu moins kaléidoscopique qu'on pourrait le penser, puisque quand même, à l'arrivée, les lecteurs ont tendance à me dire qu'il se dégage quand même de tout cela un portrait de notre pays, de l'opinion publique, et surtout un constat du décalage qui persiste, puisqu'il existait déjà en 2002 et on en a vu les résultats, eh bien ce décalage entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre le pays légal et le pays réel, on peut donner toutes les appellations qu'on voudra, mais ce décalage persiste et c'est ce qui me fait penser que de nouvelles surprises, peut-être très différentes de celles qu'on a connues il y a 5 ans, mais de nouvelles surprises ne sont pas tout à fait à exclure lors des prochaines élections.
Oui, je trouve que ce que vous dites, enfin cette introduction à votre livre est très juste, et on sent l'homme, ce qui est très intéressant, un homme qui est un homme sans vraiment parti pris, doublé d'un moraliste. Et alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que vous sentez plus du côté de Voltaire ou du côté de La Fontaine ?
Ah, oh, deux références quand même précieuses. Peut-être plus du côté de La Fontaine.
C'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre.
J'aime bien justement décrire des scénettes et essayer d'en tirer une morale plus générale. Donc la comparaison très flatteuse pour moi avec La Fontaine me convient bien. Donc oui, c'est plutôt ce genre de petite touche un peu impressionniste que j'aime bien et qui finit encore une fois par, je crois, et c'est ce qu'on a la gentillesse de me dire, par former quand même un tableau.
Ah, je dirais que c'est vrai, vous parliez de scénettes tout à l'heure, je pense que c'est une véritable série de tableaux teints. Et non seulement, pire qui donne, c'est vrai, au bout d'un moment, un portrait tout à fait solide ou intéressant de notre pays en devenir, si vous voulez. Et il y a, quand je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes plutôt du côté de La Fontaine que de Voltaire ? Certes, je vous sens plus du côté de La Fontaine, mais je vous découvre aussi quand même voltairien par moment. Il n'y a pas vraiment de parti pris, même s'il y a de temps à autre des partis qui sont pris. Et puis j'ajouterai aussi que vous êtes tout de même un homme qui rectifiait les petites et les grandes injustices quand même. Parce que dans notre pays, il y a tout de même des petites injustices, c'est vrai, qui frappent souvent les humbles, il ne faut pas l'oublier, et les grandes injustices, c'est-à-dire de ceux qui se sont un peu appropriés le pouvoir. Et je vois qu'à la page 15, vous avez repris cette très belle formule très intéressante pour un texte qui s'appelle « La défaite des victoires », et vous avez repris un texte, « Comme disait autrefois Maurice Druon, le cocktail Molotov dans une main, la sébile dans l'autre ».
Oui, c'est à propos des victoires de la musique qui, cette année-là, comme d'ailleurs assez souvent, nous avait infligé quelques rappeurs, avec, on peut penser ce qu'on veut du rap, moi personnellement c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça, chacun peut avoir son goût, mais surtout ce qui me choque c'est les textes, des textes d'une d'une violence extrême où on s'en prend alors au capital, à tout ce qu'on voudra, à la société dans son ensemble, à la répression, à tout. Et ce qui n'empêche pas de signer, comme on dit dans ce milieu-là, de signer dans des grandes maisons de disques, elles-mêmes ultra-capitalistes. Donc je disais, c'est effectivement le cocktail Molotov dans une main, la sébile dans l'autre. C'était la célèbre phrase de Maurice
de Maurice Devaux, de l'Académie française, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie française.
Quand vous parliez de rectifier les injustices, ça me semble un peu ambitieux pour le propos qui est le mien. Il m'arrive d'en dénoncer et j'essaye surtout de montrer quand même quelques faux-semblants, quelques attitudes qui sont de façade et derrière lesquelles il y a tout à fait autre chose que ce que prétendent leurs auteurs. Ça, j'aime bien, oui.
Ce que vous venez de dire là me semble très important. C'est vrai, les faux-semblants, c'est-à-dire il y a la façade, ce qu'on appelle presque on pourrait appeler le Potemkin, si vous voulez, etc. Et puis il y a vraiment derrière la façade la réalité, comme un exemple qui me revient tout de suite à l'esprit de je ne sais plus quelle page, nous avons des jeunes qui veulent entrer dans une boîte de nuit. Et là, évidemment, mais non, on leur refuse l'entrée. Ce sont des jeunes, vous n'avez pas spécifié l'origine, mais on leur refuse l'entrée parce que non, la soirée est réservée aux blacks,
oui,
etc. Alors, c'est assez étonnant que, alors justement, là, personne ne réagisse devant ce phénomène.
On entend souvent parler des phénomènes de testing, comme on dit français, à l'entrée des boîtes de nuit, notamment, et où des jeunes, souvent issus de l'immigration, sont refoulés. Et donc, ça peut servir maintenant, avec la création de la HALD, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, ça peut servir, le testing peut servir de preuve pour faire un procès, faire condamner des gens. Bien, très bien. Mais quand la discrimination est dans l'autre sens, et quand des jeunes à l'entrée d'une boîte de nuit, on leur dit « Désolé, ce soir, c'est une soirée black », puisque c'était comme ça qu'arrivait une bande de jeunes que je connaissais, alors là, il n'y a rien à dire, tout va très bien.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un peu, c'est vrai.
Et le racisme anti-blanc, alors peut-être pas dans cette boîte de nuit, mais que l'on voit, qu'on a vu à d'autres occasions, et on se manifestait parfois avec violence, lui est rarement, pour ne pas dire jamais, l'objet de poursuites.
Puis alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, pour changer de sujet, c'est cette trame, ce fil, le fil d'Ariane, je ne sais pas si on peut l'appeler le fil d'Ariane, entre dans votre livre, entre la musique. Vous aimez la musique, vous êtes
beaucoup
un fan de Johnny, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, vous reliez musique et politique, enfin relié, peut-être pas relié, mais enfin, il y a des liens entre Johnny et par exemple Chirac, etc. C'est assez.
Oui, c'était de vieux survivants de tout. Ça, j'avais fait un portrait croisé qui m'avait beaucoup amusé, parce que, comme en plus ils se connaissent, c'est que Johnny, qui soutient aujourd'hui Nicolas Sarkozy, mais a longtemps soutenu Jacques Chirac, a même chanté pour lui, je crois, la présidentielle de 1988 à l'hippodrome de Vincennes, si je me souviens bien. Et ça m'avait amusé de faire ce portrait croisé de deux hommes qui ont tous les deux une longue carrière, chacun dans son domaine, que l'on a cru souvent fini, terminé, has-been, etc. Et qui tout à coup, quand il y a une épreuve qui arrive, que ce soit une élection pour l'un ou un grand spectacle pour l'autre, on les voit tout à coup remonter sur leur cheval, perdre les kilos en trop qu'ils avaient et repartir à la bataille plus fort que jamais. Donc ça m'a beaucoup amusé. J'ai trouvé que c'était un parallèle, moi, qui était pas trop mal vu.
Et c'est vrai, parce que quand on voit les obstacles qu'il y a dans notre pays pour réussir, pour aller de l'avant, pour ouvrir une société, il faut payer des tas de sommes avant même d'ouvrir une société, etc. Devant autant d'obstacles, on peut admirer d'une certaine façon les personnages, que ce soit Johnny, que ce soit le président Chirac, qui vraiment arrive à sauter tous ces obstacles. Parce que c'est particulièrement dur quand même dans notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou...
Je crois que c'est... Vous savez, il n'y a pas de réussite durable, quel que soit le domaine, par hasard. Des gens qui pendant 40 ans sont là et restent presque tout le temps au premier rang, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, hein, qu'on partage leurs idées ou pas, ou qu'on aime leur musique ou pas, mais il faut se dire que c'est pas possible. Ça n'existe pas, ils ne sont pas là par hasard, c'est qu'ils ont quelque chose de plus, ils ont ou des qualités, ou un instinct, ou une force, mais ils n'arrivent jamais par hasard.
Est-ce qu'en fréquentant tout ce haut personnel politique, que vous connaissez quand même pas trop mal, est-ce que vous avez quand même noté, ça c'est un peu le côté journaliste au journaliste, est-ce que vous avez noté quand même certaines qualités que certaines personnes devaient absolument avoir pour tenir, résister, triompher, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, tout d'un coup, même des personnages de deux bords très différents, mais que vous retrouvez ?
Oui, je crois d'abord qu'il doit avoir d'abord une bonne santé. Mais ça a l'air anecdotique,
on l'oublie,
mais ça ne l'est pas.
Ouais.
Parce que... On se moque beaucoup. Moi, j'ai beaucoup suivi les hommes politiques dans mon métier de journaliste. Et on se moque beaucoup d'eux. On a souvent raison. On les brocarde. Mais la plupart d'entre eux, s'ils mettaient dans des activités privées et lucratives la moitié de l'énergie qu'ils mettent dans leur carrière politique, ils feraient peut-être fortune et peut-être nettement plus que ce qu'ils peuvent faire sur ce plan-là, sur le plan financier, dans la vie politique. Donc, il y a la santé. Et puis, je crois qu'il y a une qualité, alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, il y a une caractéristique qu'il faut avoir, c'est croire en soi. Mais d'une façon alors, absolument extraordinaire,
phénoménale.
On ne pas douter du fait qu'on est fait pour cela, qu'on a un destin. Alors, ce destin, on peut estimer que c'est uniquement personnel ou que c'est au service de convictions profondes, ça c'est bon. Mais en tout cas, y croire profondément. Et il y en a un qui le demande d'ailleurs actuellement, je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne sais pas quel est son avenir et ce n'est pas mon favori. Mais François Bayrou, ça fait des années,
oui, c'est vrai,
années que je dis à des amis, quand ils rient un peu de lui, je dis attention, il a une qualité, s'il n'en a qu'une, il en a au moins une, c'est celle d'être totalement convaincu qu'il est un homme providentiel, que la France aura un jour ou l'autre besoin de lui. Et je dis, méfiez-vous, ce genre de foi, ça fait bouger les montagnes parfois, et peut-être que c'est en train d'arriver, j'en sais rien, il est encore loin du compte, mais en tout cas, par rapport à là où il était il y a un mois, il est certain qu'il a fait bouger un certain nombre de choses, parce qu'il a enraciné en lui la conviction qu'il a une espèce de mission dans ce pays à accomplir.
Oui, et c'est vrai que, si vous voulez, nous parlons comme ça de ce que nous voyons, c'est vrai qu'il a une sorte de calme qui est assez impressionnant. Mmh. Je veux dire, une présence, une force. Alors par contre, c'est vrai que là, vous avez tout à fait raison, c'est très difficile de voir pour l'avenir, parce que son positionnement n'est pas évident, hein, bon, etc. Mais bon, nous n'en disons pas plus. Alors, pour revenir à votre livre, si vous voulez, il y a ce côté, donc ce fil musical qui est très, très intéressant, je trouve. On voit que vous êtes un homme qui aimait les choses. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que le livre plaît déjà beaucoup et va énormément plaire parce qu'il y a à la fois beaucoup de sérieux et même une certaine gravité, mais toujours présenté avec humour, avec même côté un peu blagueur ou bien même l'œil, si vous voulez, on nous fait un peu un clin d'œil, etc., au lecteur. Et donc, c'est à la fois, ça se lit bien parce que vous nous emmenez dans une scénette véritablement, alors quelle va être la morale de l'histoire ? Il y a beaucoup de petites morales tout à fait intéressantes, mais en même temps, au fond, petit à petit, cet ensemble de tableautas, vous vous dites scénette, moi je verrai comme lecteur tableautas, cet ensemble de tableautas donne un portrait d'une France, et vous avez tout à fait raison de le dire tout à l'heure, entre les élections de 2002 et celles qui sont en train de venir actuellement. Alors, est-ce que de cet ensemble France, si vous adressez à un public étranger, car 25% de nos auditeurs, c'est-à-dire près de 30 000 personnes, vivent à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette France sans complexe ? C'est le titre, je le rappelle, La France sans complexe, Gérard Gachet aux éditions du Rocher. Voilà.
Alors, La France sans complexe, c'est peut-être celle que je voudrais retrouver, parce qu'aujourd'hui, elle en a quand même un certain nombre de complexes. Et c'est un pays, moi ce qui me frappe beaucoup, malgré tous ses atouts, malgré toutes ses qualités qui sont connues et évidentes, c'est un pays qui pour l'instant doute de lui, et un pays où pour la première fois, je crois depuis très longtemps, et dans toutes les catégories sociales, là aussi c'est nouveau, pour la première fois, les gens pensent que demain sera moins bien qu'aujourd'hui, et que leurs enfants vivront moins bien qu'eux.
Nous allons reprendre dans un tout petit instant cet excellent entretien avec Gérard Gachet, qui est l'auteur, je viens de le rappeler, de La France sans complexe aux éditions du Rocher. Et je signale que les auditeurs peuvent parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque. Voilà, je vous remercie, nous reprenons dans un instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Gérard Gachet, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un ancien du Figaro et aussi directeur de la rédaction et membre du directoire du groupe Valmonde et donc de Valeurs Actuelles. Bon, cher Gérard Gachet, nous parlions il y a un instant de la France et des atouts de la France et des difficultés de la France. Quelles sont-elles, ces difficultés de la France? Vous avez noté quelques-unes, je
donc
pense.
Donc, ces difficultés, je parlais de... du décalage donc entre la France officielle et la France réelle, qui est toujours vivace. Et il y a une chose qui a aggravé ce décalage. Les gens ont soif donc de débats, ils veulent qu'on puisse parler d'un certain nombre de sujets qui les tracassent. Et sur un certain nombre de thèmes, au contraire, depuis quelques années, on a voté des lois dans ce pays qui ont restreint considérablement la liberté d'expression et la liberté de débat. Et donc les gens voient qu'ils ont envie de poser un certain nombre de questions et que sur un certain nombre de thèmes, ils n'ont plus le droit de les poser. Ou alors ils les posent à leurs risques et périls. Je m'explique. Il y a par exemple un thème qui est abordé, on l'a vu dans les débats télévisés d'ailleurs, dans les émissions où viennent les candidats de s'expliquer devant des électeurs. L'histoire du mariage homosexuel et de l'adoption, du mariage gay et de l'homoparentalité, comme on dit. On peut débattre. C'est un sujet de société. Monsieur Van Est, qui est un député UMP, donc c'est pas un extrémiste, s'est permis d'énoncer un point de vue où il a estimé que pour lui, sur le plan de l'intérêt général, il ne parlait pas de la vie privée des gens, mais sur le plan de l'intérêt général, il pensait que l'homosexualité était un comportement inférieur à l'hétérosexualité, puisqu'elle ne permet pas de renouveler les générations et d'avoir des enfants. Et donc, il disait que dans l'intérêt de l'État, la puissance démographique d'un pays, c'est quelque chose. Ça lui semblait être un comportement, s'il se généralisait, qui était dangereux et en tout cas inférieur à celui de l'hétérosexualité.
Oui, est-ce que ça n'a pas toujours existé dans toutes les sociétés?
Oui, tout à fait. Oui. Non, mais on peut, alors, je ne dis pas que je suis d'accord avec M. Van Est. Oui. Pas du tout. On peut contester tout à fait ses propos, mais je trouve que les contester, il faut les contester autour d'un micro, devant des caméras, dans des colonnes de la presse. Aujourd'hui, une loi a été votée, dite loi sur l'homophobie, qui fait que, non seulement bien sûr, il ne faut pas permettre les agressions, les insultes, les injures, le mépris, ça d'accord, mais même le fait d'établir une hiérarchie entre les comportements est punissable par la loi, et M. Van Est a été condamné en première instance et en appel pour avoir tenu ces propos-là. Et donc, vous avez un certain nombre de sujets. Il y a bien sûr toutes les lois sur l'histoire. C'est pas cette radio, Canal Académie, que j'apprendrai que beaucoup d'historiens, alors de tous bords, de tous horizons et de toutes opinions, beaucoup d'historiens se sont émus considérablement de toutes les lois qui prétendent maintenant encadrer la science historique, empêcher la recherche, la limiter, etc.
Très inquiétant.
Bon, jusqu'à des lois d'une partialité incroyable, la loi Taubira sur l'esclavage, qui ne reconnaît qu'une seule sorte d'esclavage, celle pratiquée par les puissances européennes sur 2 ou 3 siècles, alors que l'esclavage de l'Empire ottoman ou les traites interafricaines ne se rentrent pas dans le champ de cette loi. Donc il y a eu vraiment un certain nombre de choses, et je crois que ça concourt, à troubler l'opinion publique et à aggraver ce décalage entre le microcosme politico-médiatique, comme disait M. Barr, et l'opinion.
Comment expliquez-vous que nous en soyons arrivés là? C'est-à-dire que dans certains domaines, je pense à quelqu'un, le nom m'échappe là, mais qui avait rencontré au Japon Michel Serres, et Michel Serres, qui est quelqu'un aussi très connu, Michel Serres lui avait dit « oui, non, mais il y a de certaines choses, je ne sais pas s'il avait dit exactement comme ça, mais il est préférable de ne pas en parler ». Donc il y avait en effet, sur notre pays, il y a un certain nombre de tabous où on ne peut pas parler de certaines choses. Alors ça, c'est quand même inquiétant dans des sociétés dites vraiment démocratiques. Mais alors, comment expliquez-vous, et c'est là ma question, le cher Gérard Gachet, comment en sommes-nous arrivés là? C'est-à-dire, comment en 2007, dans un pays comme le nôtre, où il y a eu la Révolution française, où nous avons apporté, nous continuons d'apporter énormément de choses au monde, comment, dans notre propre pays, il y a vraiment des choses que l'on a peur d'en parler. Comment en sommes-nous arrivés là?
Eh bien, on arrive là lorsqu'on se laisse gouverner et lorsque nos gouvernants, justement, nos parlementaires, nos ministres, etc., se laissent gouverner par l'émotion et la compassion. On est dans une société de compassion, on l'a vu dans certaines émissions électorales récentes. Bon. Et si je reprends l'histoire de la loi sur l'homophobie, comment a-t-elle été votée? C'était une loi de circonstance. C'est parce qu'un jeune homme du nom de Sébastien Nouchet, qui était homosexuel, qui vit dans le Pas-de-Calais, a été prétendument, je dis pourquoi j'ajoute cet adverbe, a été prétendument agressé chez lui par des gens qui lui ont mis de l'essence sur lui et qui auraient ensuite craqué une allumette et il a été grièvement brûlé. Prétendument parce que bien sûr l'enquête, enfin bien sûr, malheureusement, l'enquête de police a démontré ensuite qu'il n'en était rien, d'ailleurs il y a eu un non-lieu rendu un an plus tard dans cette affaire.
Et on n'en a pas beaucoup parlé, ça.
Et que c'était, si si, on avait beaucoup parlé.
Oui, avant.
Ah, le non-lieu, pas trop. Non.
Le non-lieu, pas trop. Non,
puisque la police dit, bon, bah, c'était la 18e tentative de suicide de ce jeune homme, malheureusement, qui a vivant des gros problèmes psychologiques. Bon. Mais sur le moment... Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a dit « Mon Dieu, c'est horrible !» D'ailleurs, c'était horrible. Les ministres, etc. Et on a fait une loi, et M. Perben, garde des Sceaux, a lui-même dit à l'époque « Oh, cette loi, quelque part, c'est un peu la loi Nouchet, du nom de ce jeune homme. » Et donc, on a, dans l'émotion, à toute allure, voté un texte, malgré l'avis négatif de la Commission consultative des droits de l'homme, qui pourtant sait de quoi elle parle en matière de liberté, malgré les réticences très fortes de la Fédération nationale de la presse française, par son président de l'époque, qui était M. Xavier Elie, bon, malgré tout cela, eh bien, une nouvelle loi restreignant la liberté d'expression a été votée sur l'émotion, une loi de circonstance, une mauvaise loi, en plus qui reposait sur une affaire on ne peut plus douteuse.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre « La France sans complexe », c'est que vous soulevez énormément de lièvres, qu'ils soient gros, qu'ils soient moyens, qu'ils soient petits, mais vous soulevez beaucoup de lièvres, c'est-à-dire, en fait, de bon sens, là on rejoint La Fontaine, hein, le bon sens, et où il y a des tas de choses anormales dans notre pays, ou qui ne se font pas, etc. Et d'ailleurs... Alors là, je vous verrai parfaitement dans une prochaine carrière comme occupant un poste à la Cour des comptes. Là, vous seriez, excusez-moi si je me permets...
Sauf que je ne suis pas un homme de chiffres.
Non, mais pourtant, vous seriez exceptionnel pour débusquer les choses qui ne vont pas. Parce que de temps à autre, dans vos tableautins, vous nous faites des analyses absolument exceptionnelles. Vous dévoilez les choses. Et je pense que d'ailleurs, avant de s'attaquer à vous, les gens doivent faire très attention parce que vous êtes un homme de dossier. Et c'est ça qui est intéressant.
Je suis pas un homme de fiche, hein. Réfléchis, je lis beaucoup,
voilà.
J'essaye de comprendre et de parfois, non, si j'ai une qualité, c'est pas les chiffres malheureusement, c'est peut-être un esprit de synthèse qui me fait rapprocher parfois des faits qui ont l'air disparates et éloignés les uns des autres, mais qui, lorsqu'on les rapproche, ont un sens et vont dans le même sens, si vous voulez. Vous parliez du fait que les choses ont plus ou moins changé depuis 2002, etc. J'ai eu quand même avant-hier une émotion en écoutant ma radio. La première chronique de ce livre, janvier 2002, je raconte comment des jeunes, entre guillemets, de quartiers sensibles, encore entre guillemets, donc tout le monde sait de quoi on parle, des jeunes de quartiers sensibles avaient mis à sac une petite station de sport d'hiver des Alpes de Haute-Provence qui s'appelle la Foudalos. Avant-hier matin,
et ça vient de se reproduire.
J'allume ma radio, j'entends que la petite station savoyarde de Châtel venait d'être également dévastée par une bande de jeunes venus de quartiers sensibles et envoyés bien sûr au sport d'hiver aux frais du contribuable, comme il se doit.
Alors, si vous voulez, ça ce sont des points importants quand même, il ne faut pas toujours taire tout cela comme souvent on le fait. Si vous regardez, au fond, on regarde notre chère France, le titre, c'est « La France sans complexe ». Bon, elle a des complexes, la France. Mais au fond, ces complexes, ils viennent d'où? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans notre pays, depuis 1945 à aujourd'hui, a tellement changé qui fait que le portrait de la France... on le reconnaît plus tellement. Souvenez-vous du film « Les Amants » de Louis Malle, où on voyait cette fameuse église, qui d'ailleurs ressemble un petit peu, par certains côtés, à cette église de la force tranquille de l'affiche de Mitran. Il me semble qu'il y avait une église.
Hein, clocher.
C'est assez curieux, d'ailleurs, cette relation Louis Malle. Enfin, clin d'œil peut-être mitterrandien. Alors, qu'est-ce qui a tellement changé? Parce que il y a quand même... Moi, je pense à deux éléments, mais quels sont les vôtres? Qu'est-ce qui a tellement changé?
Je vois deux choses qui expliquent cet état de fait, et c'est complexe. D'une part, un pays qui s'est quand même énormément modifié dans sa composition, dans sa population. On a eu la politique d'immigration que l'on a eue. Je ne porte pas de jugement, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission à soi tout seul. Donc, une politique d'immigration et une politique de nationalité qui va avec, qui fait que le peuple français d'aujourd'hui, regardez les sorties des écoles, n'est plus le peuple français d'il y a 30 ans. Je ne porte pas de jugement, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais,
mais
ça a changé.
Raison,
nous sommes devenus un pays multiethnique, multiculturel. Par rapport à la fameuse définition que De Gaulle donnait à Alain Perfit, que je rappelle, d'un pays majoritairement de race blanche, de culture gréco-latine et de religion judéo-chrétienne, aujourd'hui, les choses ont quand même pas mal évolué.
Pas mal évolué, tout à fait.
Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous avons une classe politique qui s'est petit à petit coupé du peuple. Qu'est-ce qui se passait autrefois?
Ça, vous le montrez très bien dans votre
Qu'est-ce
livre.
Qu'est-ce qui se passait autrefois? Vous aviez, quand on a créé l'ENA, l'École nationale d'administration, c'était pour mettre à la disposition d'élus venus du peuple une haute administration performante. Excellent objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette haute administration performante, un beau jour, elle s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on travaille pour ces élus venus du peuple qui en savent beaucoup moins que nous, en tout cas en théorie, mais qui au moins, eux, savaient ce que pensait le peuple et ce qu'attendait le peuple, qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, ces élus ?» Et ces hauts fonctionnaires se sont dit « Prenons leur place !» Et ils sont devenus, bah, au lieu d'être dans les cabinets ministériels, ils sont devenus ministres, ils sont devenus présidents de la République, même pour certains d'entre eux, d'ailleurs il y en a eu plusieurs. Et donc, quand vous avez des gens quelles que soient leurs compétences intellectuelles et leurs connaissances livresques, quand vous avez des gens qui, à peine sortis de leur école, font un stage en sous-préfecture et ensuite rentrent dans des cabinets ministériels où ils auront la voiture de fonction, enfin tout ce qu'il faut, etc., et passent toute leur vie comme ça, sans jamais avoir fait une expérience en entreprise, sans jamais... comment voulez-vous que ces gens-là puissent sentir réellement quelles sont les attentes populaire, et puis y répondre. Et donc ce décalage, ben, il se crée petit à petit comme ça.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous faites un peu justement ce travail d'éclairage d'une société qui peut-être a des complexes, qui on pourrait souhaiter qu'elle n'en eût point, mais vous éclairez donc cette France alors qu'une partie de nos élites devrait justement aider à l'éclairage de cette France et surtout devrait aider à faire en sorte que la France avance. Et c'est très vrai, sur les questions d'immigration, il est étonnant de voir à quel point, sauf exception, on n'a pas éclairé cette évolution du peuple français depuis 1960. Et le deuxième élément que l'on oublie aussi beaucoup, c'est la transformation de la France, qui était quand même un pays très paysan oui. avant les années 40, qu'il est beaucoup moins. Imaginez, je crois qu'il y avait 2 millions de paysans en 1960, puis il s'est passé à 1 million, aujourd'hui c'est passé 000. À 600 000. Donc là, et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des traditions sont en train de disparaître, et c'est quand même la France paysanne, c'était quelque chose de fondamental. Alors, lié à cela, immigration et perte de certaines traditions, c'est vrai que nous arrivons à une France qui cherche un peu son identité. Alors, votre éclairage est très important. J'en arrive, si vous voulez, à un autre point. Sans vous, nous engager trop fortement, mais vous avez suivi depuis 2002 ces questions de politique française, de société française, etc. Aujourd'hui, nous arrivons à de nouvelles élections qui sont quand même très importantes. Et au fond, vous le dites très bien dans votre préface, vous ne savez pas, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. C'est très difficile parce que j'ai la conviction, dites-vous, que oui, même si la forme peut en être totalement différente, vous parlez de l'élection, sera-ce un 21 avril à l'envers, c'est très bien choisi, à l'endroit ou de travers? Et vous n'avez pas quand même une petite idée pour éclairer le...
Non, mais de toute façon, quel que soit le résultat, il y aura forcément un grand changement, puisque les deux principaux candidats, ceux qui sont donnés à tort ou à raison comme devant, a priori, participer au second tour, sont déjà eux-mêmes un changement, chacun dans son propre camp. Ils sont déjà une rupture. Je veux dire, Nicolas Sarkozy n'était pas le fils spirituel de Jacques Chirac, on le sait bien, et Ségolène Royal a dû batailler ferme au sein de son propre camp pour s'imposer. Aujourd'hui, elle est obligée de se rabibocher avec les éléphants. Bon, c'est un autre problème, c'est un problème de tactique électorale. Mais déjà, chacun dans son camp, ils sont déjà un changement et une rupture. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait un décalage et que les politiques l'ont senti et qu'il fallait faire autre chose et proposer autre chose.
Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 1er mars, si je ne m'abuse, vous pensez qu'un troisième larron peut tout d'un coup réellement arriver sur la scène et chambouler pas mal de choses ou pas?
Pour que cela se produise, il faudrait qu'un des deux favoris s'écroule.
Ah oui.
Je vois pas, parce que quand même au total, il n'y a que 100% d'électeurs, donc on ne peut pas rajouter. Si les deux favoris restent aux alentours de 25-30, ça sera difficile. Si l'un des deux s'écroulait, oui, alors à ce moment-là, un troisième larron peut faire une percée. Oui.
Alors écoutez, nous pourrions continuer à en parler longtemps parce que c'est un livre vraiment tout à fait passionnant. Nous n'avons fait non pas que l'aborder, mais nous l'avons présenté. Et je dois dire que je note au dos du livre une formule de quelqu'un qui est de notre académie, c'est-à-dire Jean-Marie Rouard de l'Académie française, qui dit quelque chose de très intéressant, et je crois que nos auditeurs seront passionnés d'entendre la formule. Gérard Gachet, dit Jean-Marie Rouard, et l'André Frossard de la droite d'aujourd'hui, sa religion, c'est la liberté. Eh bien, on pourrait rajouter la formule de M. de Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Vous qui avez été au Figaro, je pense que c'est une formule que vous faites vôtre.
Absolument, et j'ai été extrêmement touché, extrêmement ému par la formule de Jean-Marie Rouard, par la gentillesse de sa phrase, et par cette comparaison avec André Frossard, que j'ai un peu connu, et qui était quand même le grand maître du billet d'humeur.
Ce n'est pas rien, nous vous remercions, et c'est un très bon livre que je conseille à nos auditeurs. Ils peuvent parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque. Merci beaucoup.